Allô, allô.
Allô, allô, allô.
C'est André Gide.
Allô, allô, tu m'entends? Voilà. Est-ce qu'elle fait bon temps là-bas sous ton ciel?
Qui vous téléphone? Qui vous parle de la Côte d'Azur?
Écoutez ce qui va être un prodigieux document humain.
Bonsoir, mon cher Philippe Souffaut.
Y a-t-il au monde un mot plus chargé de sens et de prestige que celui de poésie?
Bonjour et bienvenue dans Prosopopée, votre nouveau rendez-vous culturel. Un mercredi par mois, de 17h à 17h30, nous évoquerons ensemble la mémoire d'un auteur, d'un poète, d'une chanson, d'un musicien.
C'est la fin de semaine, vous avez tout votre temps, tout va bien, le trafic est fluide, vos idées sont claires. Accordez-vous cette demi-heure de découverte en notre compagnie. C'est l'été sur Barthas.
Les baignades dans le Tarnon et la Mimente.
L'été, les premiers émois amoureux.
C'est ça les vacances, les femmes, l'alcool, la voiture.
Merci le Front Populaire.
Figurez-vous que l'été a beaucoup inspiré les écrivains.
C'est pourquoi nous vous proposons pour cette émission estivale de naviguer au cœur de la chaleur.
Tour à tour, charmante sur la Côte d'Azur.
Étouffante dans les rues de Paris.
Insupportable sur les hauteurs de Manosque ou sur une plage d'Alger.
Fiévreuse et sensuelle dans la vallée du Tyrol.
Alors installez-vous à l'ombre.
Nous allons faire monter la température. Laissez-nous tout d'abord vous transporter sur la Côte d'Azur, et plus précisément à l'été 1954.
Pour la première fois, la voix sèche et rapide d'un charmant petit monstre surgit. Françoise Sagan publie son premier roman « Bonjour Tristesse » à l'âge de 18 ans et qui fera scandale.
Cécile passe l'été de ses 17 ans dans une belle villa de la Côte d'Azur avec son père et la maîtresse de ce dernier. Cécile et son père, qui ont une relation fusionnelle, veulent faire du plaisir à un programme et du bon temps à un mot d'ordre. Elle va vivre ses premiers émois sexuels avec un certain Cyril lorsque Anne, une autre amie de son père, arrive dans la villa, troublant l'harmonie du trio.
Il avait loué sur la Méditerranée une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin.
Elle était bâtie sur un promontoire dominant la mer, cachée de la route par un bois de pins. Un chemin de chèvres descendait à une petite crique dorée, bordé de rochers roux où se balançait la mer.
Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa, qui rougissait et pelait dans d'affreuses souffrances.
Mon père exécutait des mouvements de jambes compliqués pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de Don Juan.
Dès l'aube, j'étais dans l'eau, une eau fraîche et transparente où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris.
Je m'allongeais dans le sable en prenant une poignée de ma main, le laissant s'enfuir de mes doigts en un jet jaunâtre et doux. Je me disais qu'il s'enfuyait comme le temps, que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles.
C'était l'été.
Laissons Cécile à ses premiers émois de vacances et plongeons avec Maupassant dans le 19e siècle.
Georges Duroy, dit bel ami, jeune ambitieux sans scrupules, débarque à Paris. Doté d'un charme irrésistible, il connaîtra une ascension sociale fulgurante grâce à ses maîtresses et à sa détermination sans faille.
Mais pour l'heure, nous sommes au début du roman. Notre héros est sans le sou. Il déambule par un soir de juin sur les boulevards de la capitale, enviant les bourgeois endimanchés.
C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris.
La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante.
Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit leur haleine empestée. Et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces.
Les concierges en manches de chemise à cheval sur des chaises en paille fumaient la pipe sous des portes cochères et les passants allaient d'un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main.
Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s'arrêta encore, indécis sur ce qu'il allait faire.
Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Élysées et l'avenue du Bois de Boulogne pour trouver un peu d'air frais sous les arbres.
Mais un désir aussi le travaillait. Celui d'une rencontre amoureuse.
Comment se présenterait-elle ?
Il n'en savait rien, mais il l'attendait depuis 3 mois.
Tous les jours.
Tous les soirs.
Quelquefois, cependant, grâce à sa belle mine et à sa tournure galante, il volait par-ci par-là un peu d'amour, mais il espérait toujours plus et mieux.
La poche vide et le sang bouillant, il s'allumait au contact des rôdeuses qui murmurent à l'angle des rues.
« Venez-vous chez moi, joli garçon ?»
Mais il n'osait les suivre, ne les pouvant payer. Et il attendait aussi autre chose, d'autres baisers, moins vulgaires.
Il aimait cependant les lieux grouillent les filles publiques, leurs bals, leurs cafés, leurs rues. Il aime les coudoyer, leur parler, les tutoyer, flairer leurs parfums violents, se sentir près d'elles.
C'était des femmes enfin, des femmes d'amour. Il ne les méprisait point du mépris inné des hommes de famille.
Il tourna vers la Madeleine et suivit le flot de foule qui coulait, accablé par la chaleur.
Les grands cafés, pleins de monde, débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leur devanture illuminée.
Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides
jaunes,
rouges,
verts,
bruns, de toutes les nuances. Et dans l'intérieur des carafes, on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle eau claire. Duroy avait ralenti sa marche et l'envie de boire lui séchait la gorge. Une soif chaude, une soif de soir d'été le tenait. Et il pensait à la sensation délicieuse des boissons froides coulant dans la bouche. Mais s'il buvait seulement 2 bocs dans la soirée, adieu le maigre souper du lendemain. Il les connaissait trop, les heures affamées de la fin du mois. Il se dit
« Il faut que je gagne 10 heures et je prendrai mon boc à l'américain. Nom d'un chien que j'ai soif tout de même. »
Et il regardait tous ces hommes attablés et buvant.
Tous ces hommes qui pouvaient se désaltérer tant qu'il leur plaisait. Il allait, passant devant les cafés d'un air crâne et gaillard, et il jugeait d'un coup d'œil, à la mine, à l'habit, ce que chaque consommateur devait porter d'argent sur lui.
Et une colère l'envahissait contre ces gens assis et tranquilles. En fouillant leurs poches, on trouverait de l'or, de la monnaie blanche et des sous.
En moyenne, chacun devait avoir au moins 2 louis.
Ils étaient plus 100 au café.
100 fois 2 louis font 4 000 francs.
Il murmurait.
Les cochons.
Tout en se dandinant avec grâce. S'il avait pu en tenir un au coin d'une rue, dans l'ombre bien noire, il y aurait tordu le cou, ma foi sans scrupule, comme il faisait aux volailles des paysans au jour de grandes manœuvres.
Et il se rappelait ses 2 années d'Afrique, la façon dont il rançonnait les Arabes dans les petits postes du Sud. Et un sourire cruel et gai passa sur ses lèvres au souvenir d'une escapade qui avait coûté la vie à 3 hommes de la tribu des Ouled Alan et qui leur avait valu, à ses camarades et à lui, 20 poules, 2 moutons et de l'or, et de quoi rire pendant 6 mois. On n'avait jamais trouvé les coupables, qu'on avait guère cherché d'ailleurs, l'Arabe étant un peu considéré comme la proie naturelle du soldat.
À Paris, c'était autre chose. On ne pouvait pas marauder gentiment, sabre au côté, revolver au poing, loin de la justice civile, en liberté. Il se sentait au cœur tous les instincts du sous-off lâché en pays conquis.
Certes, il les regrettait ces 2 années de désert.
Quel dommage de n'être pas resté là-bas.
Mais voilà, il avait espéré mieux en revenant.
Et maintenant ?
Ah oui, c'était du propre maintenant.
Il faisait aller sa langue dans sa bouche avec un petit claquement, comme pour constater la sécheresse de son palais. La foule glissait autour de lui, exténuée et lente, et il pensait toujours.
Tas de brutes. Tous ces imbéciles-là ont des sous dans le gilet.
Ils bousculaient les gens de l'épaule et sifflotaient des airs joyeux.
Des messieurs heurtaient, se retournaient en grognant. Des femmes prononçaient...
En voilà un animal !
Il passa devant le vaudeville.
Et s'arrêta en face du café américain.
Se demandant s'il n'allait pas prendre son boc, tant la soif le torturait.
Avant de se décider, il regarda l'heure aux horloges lumineuses au milieu de la chaussée.
Il était 9h15.
Il se connaissait. Dès que le verre plein de bière serait devant lui, il l'avalerait. Que ferait-il ensuite jusqu'à 11h ? Il passa...
J'irai jusqu'à la Madeleine et je reviendrai tout doucement.
Laissons Georges Duroy dans sa déambulation parisienne et traversons à présent la Provence.
Angelo Pardi, le célèbre hussard sur le toit de Jean Giono, fuit son Piémont natal suite à un duel et franchit la frontière française, alors en proie à une sécheresse exceptionnelle et une épidémie de choléra.
Il était à peu près 1 heure de l'après-midi et la chaleur était amère comme du phosphore.
« Ne passez pas au soleil, » dit l'homme, ce qui était à son avis d'une ironie profonde car il n'y avait d'ombre nulle part.
Il sembla à Angelo qu'au pas de son cheval, il entrait dans le four dont il parlait tout à l'heure. La vallée qu'il suivait était très étroite, encombrée de becquetaux de chênes nains, les parois pierreuses qui dévalaient vers elle brûlaient à blanc.
La lumière écrasée en fine poussière irritante frottait son papier de verre sur Angelo et les chevals somnolents. Sur les petits arbres qu'elle faisait disparaître peu à peu dans de l'air usé dont la trame grossière tremblait, mélangeant des taches d'un blond graisseux à des ocres ternes, à des grands pans de craie où il était impossible de reconnaître quoi que ce soit d'habituel.
Le long des hauts rochers anfractueux coulait l'odeur des nids pourris. Abandonnés par les éperviers, les pentes déversaient dans le vallon l'odeur fade de tout ce qui était mort loin à la ronde dans les collines blêmes.
Souches et peaux.
Nids de fourmis.
Petites cages thoraciques grosses comme le poing.
Squelettes de serpents en fragments de chaînes d'argent.
Étendards de mouches abattues comme des poignées de raisins de Corinthe.
Hérissons morts dont les os étaient comme le lait des châtaignes dans leur bogue.
Lambeaux hargneux de sangliers répandus sur de larges aires d'agonie.
Arbres dévorés des pieds à la tête, bourrés de sciure jusqu'à la pointe des rameaux que l'air épais tenait debout.
Carcasses de buses effondrées dans les branches de chênes sur qui le soleil frappait.
Ou l'odeur aigre des sèves que la chaleur faisait éclater dans des fentes le long des troncs des alisiers sauvages.
Toute cette barbarie n'était pas seulement dans le sommeil rouge d'Angelo.
Il n'y avait jamais eu un été semblable dans les collines.
D'ailleurs, ce jour-là, cette même chaleur noire commença à déferler en vagues tout de suite très brutales sur le pays du Sud.
Sur les solitudes du Var où les petits chênes se mirent à crépiter.
Sur les fermes perdues des plateaux où les citernes furent tout de suite assaillies de vols de pigeons.
Sur Marseille où les égouts commencèrent à fumer.
À Aix, à midi, le silence de sieste était tellement grand que, sur les boulevards, les fontaines sonnaient comme dans la nuit.
À Riant, il y eut dès 9h du matin, 2 malades.
Un charretier, qui eut une attaque juste à l'entrée du bourg, porté dans un cabaret, mis à l'ombre et saigné, il n'avait pas encore repris l'usage de la parole.
Et une jeune fille de 20 ans, qui à peu près à la même heure se souilla brusquement debout près de la fontaine où elle venait de boire, ayant essayé de courir jusque chez elle qui était à 2 pas, elle tomba comme une masse sur le seuil de sa porte.
À l'heure où Angelo dormait sur son cheval, on disait qu'elle était morte.
À Draguignan, les collines renvoyaient la chaleur dans cette cuvette où se tient la ville. Il fut impossible de faire la sieste.
Les toutes petites fenêtres des maisons qui, en temps ordinaire, permettent aux chambres de rester fraîches, il faisait cette fois tellement chaud qu'on avait envie de les agrandir à coups de pioche pour pouvoir respirer.
Tout le monde s'en alla dans les champs. Il n'y a pas de source.
Pas de fontaine.
On mangea des melons et des abricots qui étaient chauds comme cuits.
On se coucha dans l'herbe à plat ventre.
Cette année, il n'y avait pas eu d'hiver.
La chenille du pin avait mangé les aiguilles de toutes les pinèdes. Elle avait même décharné les tuyas et les cyprès. Elle s'était même transformée pour pouvoir manger les feuilles des sycomores, des platanes, des hêtres.
Des hauteurs de Carpentras, à travers des centaines de lieues carrées de squelettes d'arbres, de feuillages en dentelle et en cendres que le vent emportait, on pouvait apercevoir les remparts d'Avignon comme un thorax de bœuf blanchi par les fourmis.
Ce même jour, la chaleur y arriva. Et des premiers coups fit s'écrouler la charpente des arbres les plus malades. En gare d'Orange, les voyageurs d'un train qui venait de Lyon frappèrent de toute leur force à la portière de leur coupé pour qu'on vienne leur ouvrir.
Ils crevaient de soif.
Pendant que le choléra fait rage, un autre drame se joue sur une plage d'Alger, toujours sous un soleil de plomb.
Albert Camus publie en 1942 « L'étranger », l'histoire d'un homme, Meursault, indifférent à sa propre vie, qui ira jusqu'à commettre l'irréparable, le meurtre d'un homme.
Il plaidera la cause de la chaleur. Est-ce le soleil, comme il dira le jour de son procès, ou le racisme ambiant d'une Algérie coloniale ?
Camus dira lui-même à propos de son roman « Je voulais dire seulement que le héros du livre est condamné parce qu'il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est étranger à la société où il vit. Il erre, en marche dans les faubourgs de la vie privée, solitaire, sensuelle. »
Il était seul.
Il reposait sur le dos, les mains sous la nuque, le front dans les ombres du rocher, tout le corps au soleil.
Son bleu de chauffe fumait dans la chaleur.
J'ai été un peu surpris.
Pour moi, c'était une histoire finie et j'étais venu là sans y penser.
Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche.
Moi, naturellement, j'ai serré le revolver de Raymond dans mon veston.
Alors, de nouveau, il s'est laissé aller en arrière, mais sans retirer la main de sa poche.
J'étais assez loin de lui, une dizaine de mètres.
Je devinais son regard par instant, entre ses paupières mi-closes.
Mais le plus souvent, son image dansait devant mes yeux, dans l'air enflammé.
Le bruit des vagues était encore plus paresseux, plus étal qu'à midi.
C'était le même soleil, la même lumière sur le même sable qui se prolongeait ici.
Il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus. 2 heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant.
À l'horizon, un petit vapeur est passé, et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard, parce que je n'avais pas cessé de regarder l'arabe.
J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini.
Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi.
J'ai fait quelques pas vers la source.
L'arabe n'a pas bougé.
Malgré tout, il était encore assez loin.
Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire.
J'ai attendu.
La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils.
C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. Et comme alors le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau.
À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant.
Je savais que c'était stupide que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas.
Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil.
La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front.
Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais.
Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel.
Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi.
Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux.
C'est alors que tout a vacillé.
La mer a charrié un souffle épais et ardent.
Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu.
Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver.
La gâchette a cédé.
J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là,
dans le bruit à la fois sec et assourdissant,
que tout a commencé.
J'ai secoué la sueur et le soleil.
J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour.
Le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux.
Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte.
Où les balles s'enfonçaient sans qu'il n'y parût.
Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais à la porte du malheur.
C'est une autre porte que nous allons ouvrir à présent.
Celle d'un hôtel au cœur des Dolomites, alangui par une chaleur torride du mois d'août.
Dans la nouvelle de Stefan Zweig, La femme et le paysage, le narrateur erre dans la pension à la recherche d'un peu de fraîcheur.
Un soir, au dîner, il est troublé par la présence d'une jeune femme.
Plus tard, happé par la chaleur d'un désir brutal s'empare de lui. Fiévreux, il remonte finalement dans sa chambre. Elle est là.
Je fis quelques pas pour voir ce qui pouvait luire en cette nuit où la lune était voilée. Je m'approchai encore un peu plus et cela se mit à bouger. Je fus surpris, mais non effrayé, car cette nuit-là, j'étais étrangement préparé au fantastique. Je l'attendais, je le pressentais.
Aucune rencontre ne pouvait m'étonner, et celle-ci moins que toute autre, car vraiment, c'était elle qui était là. La femme à laquelle inconsciemment j'avais pensé, à chaque marche que je montais, à chaque pas que je faisais dans la maison endormie. Celle dont mes sens exaltés avaient senti à travers les murs la présence éveillée.
Son visage m'apparut comme une lueur, cependant que sa chemise de nuit semblait l'envelopper d'une vapeur blanche. Telle qu'elle était là, penchée sur le paysage et comme attirée mystérieusement vers son destin par le miroir luisant des profondeurs, elle paraissait féerique.
Ophélie au-dessus de l'étang.
J'approchais à la fois craintif et ému. Elle avait dû m'entendre car elle se retourna. Son visage était dans l'ombre. Je ne savais pas si elle me voyait, si réellement elle m'entendait. Car il n'y avait rien de brusque dans son geste, aucune frayeur, aucune résistance.
Tout était silencieux autour de nous, rien que le tic-tac d'une petite horloge accrochée au mur. Le silence se prolongea, puis elle dit soudain, d'une voix douce, ces mots inattendus.
« Que j'ai peur. »
À qui parlait-elle? M'avait-elle reconnue? Était-ce à moi qu'elle s'adressait? Parlait-elle dans le sommeil?
J'allais vers elle, pour la tranquilliser, je pris sa main. Elle était chaude et sèche comme de l'amadou. Ses doigts se brisèrent doucement dans les miens.
Sans mot dire, elle me laissa sa main.
Tout en elle était détendu, sans ressort ni défense.
Seules ses lèvres répétèrent et ses paroles semblaient venir de très loin.
Que j'ai peur, que j'ai peur.
Puis, dans un soupir mourant, comme si elle étouffait.
Oh, qu'il fait lourd.
La voix n'était qu'un murmure, comme s'il s'agissait d'un secret entre nous deux.
Je sentais cependant que ce n'était pas à moi qu'elle s'adressait. Je saisis son bras.
Elle tremblait légèrement, comme les arbres l'après-midi, avant l'orage, mais elle ne se défendait pas. Je la serrai davantage, elle s'abandonna. Faible, sans résistance, ses épaules tombèrent sur moi comme une vague chaude qui déferle.
Elle était au contre moi à présent. Je pouvais respirer la chaleur de sa peau et l'odeur moite de ses cheveux. Je ne fis aucun mouvement, elle resta silencieuse. Tout cela était étrange et ma curiosité se mit à flamber.
Mon impatience devint de plus en plus grande. J'effleurai ses cheveux de mes lèvres, elle ne s'y opposa point.
Puis je pris ses lèvres.
Elles étaient sèches et brûlantes. Et sous mon baiser, elles s'ouvrirent brusquement pour boire aux miennes, non avec passion, mais avec la calme exigence de l'enfant au sein.
Elle me faisait l'impression d'un être mourant de soif, et de même que ses lèvres, son corps svelte, dont je sentais la chaude respiration à travers le mince vêtement, se pressait contre moi.
Tout comme avait fait la nuit tout à l'heure.
Sans violence, mais avec une avidité, une ivresse.
Et voilà qu'en la tenant,
mes sens étaient encore troubles.
Je sentais sur moi, chaude et moite, telle qu'elle était dans la journée, la terre altérée dans l'attente de l'ondée bienfaisante.
Je l'embrassais encore.
Et je croyais presser contre moi le vaste monde, comme si la chaleur qui brûlait ses joues était la vapeur brûlante des champs.
Comme si la campagne frémissante respirait dans sa chaude et molle poitrine.
Mais alors que mes lèvres errantes montaient jusqu'à ses yeux,
dont les flammes noires m'avaient fait frissonner,
au moment où je me redressais pour voir son visage et en jouir davantage en le contemplant,
je m'aperçus étonné que ses paupières étaient closes, comme un masque grec taillé dans la pierre. Elle était là, sans yeux, sans vie.
Ophélie morte, à présent, flottant sur les eaux, le visage inerte et pâle, émergeant des flots sombres.
J'eus peur. La réalité m'apparut dans cette aventure fantastique.
Je m'aperçus avec horreur que je tenais dans mes bras une malade, une égarée, une inconsciente.
Une somnambule poussée dans ma chambre par la chaleur accablante de la nuit.
Un être qui ne savait pas ce qu'il faisait et qui peut-être ne voulait pas de moi.
J'eus peur et je trouvais qu'elle était lourde.
Doucement, je m'efforçais de laisser glisser sur une chaise, sur le lit, cette femme privée de volonté afin de ne pas abuser de son délire, de ne pas accomplir une chose que peut-être elle n'aurait point voulu.
Mais que désirait seulement le démon de son sang.
À peine me sentit-elle délier l'étreinte qu'elle se mit à geindre doucement.
Ne me lâche pas, ne me lâche pas.
Et ses lèvres devenaient plus avides, son corps se serrait davantage contre le mien.
Mes nerfs brûlaient du désir de la voir non plus en état de somnambulisme, mais éveillée et parlant comme un être réel. Ce corps aux jouissances sourdes, je voulais à tout prix le ramener à l'état conscient.
Je la tirai violemment à moi, je la secouai. J'enfonçai mes dents dans ses lèvres et mes doigts dans ses bras, afin qu'elle ouvrît enfin les yeux et fît consciemment ce que jusqu'alors un vague instinct l'avait poussée à faire. Elle se courba en gémissant sous la douloureuse étreinte.
« Encore, encore !»
murmura-t-elle avec une chaleur insensée qui m'excitait et me faisait perdre la raison.
Je sentais que l'éveil était proche, qu'il allait percer sous les paupières closes, qui déjà tremblaient d'une manière inquiète.
Je la serrais de plus en plus fort, je m'enfonçais plus profondément en elle.
Soudain, une larme roula le long de sa joue.
Et je bus la goutte salée.
La terrible agitation de son sein augmentait sous mon étreinte.
Elle gémissait.
Ses membres se crispaient comme s'ils eussent voulu briser quelque chose de terrible, le cercle du sommeil qui l'emprisonnait.
Soudain,
ce fut comme un éclair à travers le ciel orageux.
Quelque chose en elle se rompit.
Elle s'était assoupie.
Elle dormait. Je restais assis sur le bord du lit, penché sur elle et tout tremblant.
Enfant paisible, elle reposait là.
Les yeux fermés.
Un léger sourire au coin de la bouche, animé d'un rêve intérieur.
Je ne connaissais rien d'elle.
Je savais seulement qu'aucun lien ne nous unissait.
Je la regardais.
Minute silencieuse où l'on n'entendait que le tic-tac de l'horloge accrochée au mur.
Et j'essayais de lire dans son visage muet, mais rien d'elle ne m'était familier.
J'avais envie de l'arracher de ce sommeil bizarre tout près de moi, dans ma chambre, tout près de ma vie, et j'avais peur en même temps de son premier regard de lucidité.
C'est ainsi que je restais là, muet, une heure ou deux peut-être, à veiller sur le sommeil de cet être inconnu. Et peu à peu, j'eus l'impression que ce n'était pas une femme, un être humain, qu'une étrange aventure avait conduit près de moi.
Mais la nuit elle-même, et que c'était le secret de la nature tourmentée et mourante de soif qui se révélait à moi, il me semblait que la terre brûlante, l'essence enfin apaisée, reposait là sous ma main.
J'entendis un bruit derrière moi. Je sursautai comme un coupable.
On entendait un sifflement, une terrible rumeur.
Une tour noire s'élevait dans le ciel et du fond des ténèbres, une chose froide et humide se jeta sur moi avec violence.
C'était le vent. Un coup de tonnerre formidable se fit entendre en même temps que se refermait la porte.
Puis ce fut le déchaînement. Des ruisseaux se jetaient d'une hauteur infinie, pareil à des cascades. Et la tempête les brandillait avec fracas comme elle eût fait de cordages mouillés.
Parfois, elle lançait des paquets d'eau glacée et des bouffées d'air parfumé dans l'embrasure de la fenêtre, où je restais en contemplation jusqu'à ce que mes cheveux fussent mouillés et mon corps trempé.
J'étais heureux de sentir la pureté des éléments.
Il me semblait que les éclairs me délivraient moi aussi de mon accablement et j'aurais voulu crier de plaisir. J'oubliais tout dans le ravissement de pouvoir enfin respirer et sentir cette fraîcheur que j'aspirais comme la terre, comme la campagne. J'éprouvais la volupté d'être secoué comme les arbres qui oscillaient en sifflant sous les verges mouillées de la pluie.
La lutte voluptueuse entre le ciel et la terre était d'une beauté démoniaque. C'était une gigantesque nuit de noces dont je partageais le plaisir en pensée.
Les éclairs empoignaient la terre frémissante, le tonnerre s'abattait sur elle, et c'était dans cette obscurité gémissante une étreinte passionnée.
Tout se disloquait,
s'effondrait,
la nuit et le monde,
et un souffle nouveau,
merveilleux,
dans lequel l'odeur des champs se mêlait à la laine embrassée du ciel,
me pénétrait de sa pureté.
3 semaines d'ardeur contenue s'assouvissaient dans cette lutte dont j'éprouvais les bienfaits.
Je n'étais plus un être humain.
J'étais la pluie,
l'ouragan,
la nuit,
le monde dans ce débordement de la nature.
La nuit douce et chantante était un merveilleux berceau.
Et j'y sombrais,
m'endormant avec elle.
Le lendemain matin, en m'approchant de la fenêtre, je vis un monde transformé.
La campagne, claire et sereine, étendait ses contours fermes sous les rayons d'un soleil stable, et bien au-dessus d'elle, lumineux miroir de cette sérénité, l'horizon déployait sa vaste voûte bleue.
La limite était nettement tracée. Le ciel qui, la veille, avait profondément pénétré les champs et les avait fécondés, était infiniment loin.
Il était très loin à présent, à des mondes de distance et détaché de tout lien.
Il ne touchait plus nulle part la terre odorante, son épouse, qui respirait, apaisée.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born.